Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Le débat du jour se penche ce soir sur la COP 26. À quoi servent les conférences sur le climat ?
COP 26. A RFI entra no clima.
O clima está desregulado.
We're scared for our future.
Notre maison brûle.
Atuação na Amazônia é fundamental.
Beginning of a mass extinction.
Unthinkable and horrific.
El Ártico se está derritiendo três vezes.
Consequência da mudança climática.
COP 26.
Peut-être celle de la dernière chance.
It's our time to stand up and take action.
La COP 26 qui s'ouvre à Glasgow, en Écosse, ce dimanche 31 octobre 2021. C'est donc dans quelques jours que les dirigeants du monde entier vont à nouveau se réunir pour parler climat et peut-être prendre de nouvelles décisions pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. À force d'entendre que la catastrophe se rapproche et après les bonnes intentions de l'accord de Paris d'il y a maintenant 6 ans, à savoir limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, les 25 précédentes COP sont-elles parvenues à stopper le dérèglement climatique ? Le temps des tergiversations est-il révolu ? L'espoir est-il encore de mise ? Et comme pour donner le ton à la tâche ardue qui attend le président britannique de la COP 26, Alok Sharma déclare « La COP 26, c'est un peu comme à la fin de l'examen, il ne reste que les questions les plus difficiles. À quoi servent les conférences sur le climat ?» C'est le débat du jour.
RFI.
À quelques jours donc maintenant de l'ouverture de la COP 26 sur le climat, nous sommes avec trois invités. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent. Lola Valéjo, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. En studio avec nous ici à Paris, Clément Sénéchal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole climat de l'ONG Greenpeace. Et puis Hervé Le Treut, bonsoir.
Bonsoir.
Climatologue et membre de l'Académie des sciences. Je le disais, hein, ce dimanche s'ouvrira la COP 26 et les alertes se multiplient. Dernière en date, selon un rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement, les engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les plans de production de charbon, de pétrole, de gaz sont toujours largement incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris conclu en 2015. Les États s'étaient engagés à limiter le réchauffement. Eh bien, le programme constate que les plans de production des gouvernements dans les énergies fossiles, particulièrement émettrices de gaz à effet de serre, sont toujours en dangereux décalage avec les objectifs de Paris. Première question en guise d'introduction avec vous, Lola Valéjo. Dites-nous à quoi servent toutes ces conférences sur le climat ?
Ces conférences sur le climat, elles sont un moment d'impulsion politique pour la lutte multilatérale contre le changement climatique. C'est un problème tellement gigantesque qu'il ne peut être géré que si tous les pays sont dans la bataille. Et le cadre actuel qu'on a avec l'accord de Paris sert à donner un objectif commun, c'est limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés et faire des efforts pour viser le 1,5. Et ça permet surtout d'avoir des règles communes qui permettent que tout le monde reste engagé dans cet objectif. Et c'est justement à ça que va servir la COP 26. C'est la première échéance où les États sont attendus avec des nouveaux engagements rehaussés, plus ambitieux à l'échelle de 2030 pour réduire les émissions et essayer d'atteindre ensemble cet objectif de 1,5 degré.
Même question avec vous, Clément Sénéchal, l'intérêt d'organiser ce genre de conférence ?
Alors évidemment, la question peut se poser aujourd'hui, tant les retards s'accumulent, tant au niveau diplomatique, au niveau des résultats sur le plan domestique. Pour autant, je suis d'accord avec ce que vient de dire Lola Valéjo. Ça permet de maintenir le climat à l'agenda, ça permet de poursuivre une discussion internationale sur un phénomène qui est global par ses causes, par sa structure et par ses conséquences. Ça permet aussi aux représentants des pays les plus vulnérables de venir discuter à statut égal avec les représentants des pays les plus puissants et qui sont les premiers responsables du réchauffement climatique. Ça permet aussi d'apporter un traitement diplomatique aux enjeux climatiques qui sont des enjeux matériels. Et donc, c'est préférable à une solution qui relèverait plutôt des pratiques commerciales agressives ou des solutions militaires. On parle, quand on parle réchauffement climatique, on parle de l'épuisement des ressources matérielles, par exemple, de flux migratoires en hausse. Cette année, l'année dernière, c'était 23 millions de déplacés climatiques. Donc, ce sont des enjeux qui sont régaliennes et géopolitiques. Et donc, c'est important d'avoir un canal diplomatique pour continuer à traiter ces sujets-là. Et puis, ça permet aussi aux différentes communautés climatiques de la société civile mondiale de se rencontrer, de s'inspirer, de faire connaissance, de venir demander des comptes aux dirigeants de ce monde et de faire front commun. Par contre, si on imagine effectivement que c'est une COP tous les ans, pendant 2 semaines, une conférence internationale comme ça qui va régler le problème, là on s'illusionne grandement. La ligne de front, elle passe aussi par le terrain diplomatique, mais aussi par les États, par les gouvernements, par les parlements, par les populations, par les acteurs économiques, par les électeurs. Là, on a une élection qui arrive en France bientôt, voilà, et j'invite les gens à observer, à décrypter les programmes politiques et à se prononcer pour celui qui paraîtra le plus crédible en termes de lutte contre le réchauffement climatique.
Et vous, Hervé Le Trut, hein, sachant que depuis le début de la pandémie, c'est l'un des premiers rendez-vous internationaux en présentiel, à quoi sert cette conférence sur le climat ?
Ben, je dirais, comme toutes les personnes précédentes, que je crois qu'on a vraiment besoin de ce point de rencontre. Il n'y en a pas d'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on peut réunir toutes les personnes qui sont en fait bien disposées vis-à-vis de l'action dans ces domaines-là. Donc, bien sûr, les résultats n'ont jamais été au rendez-vous par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter. Mais c'est aussi une école, en fait, la COP. Ça permet à des gens très différents de se rencontrer. Moi, j'ai fait que, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris par rapport à mon métier de climatologue, quels étaient les enjeux, quels étaient les points saillants par rapport auxquels on pouvait essayer de prendre des décisions, on pouvait essayer de trouver des manières de se projeter. Donc je crois qu'on a absolument besoin de la COP. Alors après, le fait de savoir si elle est couronnée de succès ou pas, ça dépend bien sûr d'aléas qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus importants.
Et selon vous, comment faire pour que cette COP 26 soit un succès ?
Ben, je pense que le problème du succès tel qu'on le dessine un petit peu aujourd'hui, c'est quelque chose qui a effectivement un petit côté de dessin animé ou de je sais pas. Il y a un moment particulier où effectivement on se focalise sur ces enjeux-là. Bien sûr, ces enjeux-là ils sont avec nous tout le temps. Les gaz à effet de serre ils sont émis tout le temps. Donc le succès c'est pas quelque chose qui se mesure nécessairement dans les jours qui suivent.
Bon, il y avait quand même des objectifs liés à l'accord de Paris qui ont été gravés dans le marbre, si j'ose dire.
C'est gravé dans le marbre, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait depuis le début que le caractère vraiment décisionnel qui accompagne les COP n'est pas vraiment là. Les États sont maîtres de leurs décisions de manière parce qu'il est irrévocable. On n'a jamais été en capacité c'est quelque chose qui ne peut se faire que sur un travail collectif, sur un travail qui est. Et je crois que ce qu'on doit effectivement. La question, elle est de savoir si la COP sert à quelque chose, hein, la question que vous avez posée. Je pense que sans la COP, on n'a pas justement les liens qu'on peut avoir entre les différents États, les différentes personnes, les différentes. Donc je crois que c'est essentiel d'avoir cela. Après, est-ce que ça suffit ? Certainement pas.
C'est ce qu'on va demander à nos autres invités. Lola Vallejo, un des succès escomptés de cette COP, c'est aussi finaliser l'accord de Paris. Expliquez-nous.
Alors, l'accord de Paris, il est déjà finalisé, il a été signé en 2015 et il pose un grand nombre d'objectifs de long terme pour limiter les pires effets du changement climatique, s'adapter à ses impacts, mais aussi harmoniser l'ensemble des flux financiers. Par contre, comme c'est un accord très vaste, il y a des règles de mise en œuvre. Et la plupart de ces règles ont été votées, adoptées en 2018. Mais il y a un chapitre qui fait toujours défaut, c'est celui qui a trait aux marchés carbone internationaux. Et c'est en fait le fait que les États, avec la participation du secteur privé, puissent échanger des réductions d'émissions. Qu'elle soit réalisée dans un endroit, mais vendue pour qu'elle soit portée au bénéfice d'un autre État, voire d'un autre acteur privé. Et ces règles-là, elles sont très complexes, puisque alors que dans le protocole de Kyoto, on est dans un monde où seulement les pays développés avait des engagements de réduction d'émissions. Et donc tout ce qui était fait ailleurs était nécessairement additionnel. Avec l'accord de Paris, on est dans un cadre nouveau où tous les pays sont comptables de leurs engagements. Et la difficulté, c'est de se mettre d'accord sur des règles pour ces crédits carbone où on évite le double comptage. C'est-à-dire le vendeur et l'acheteur voudraient compter tous les deux ce crédit dans leur bilan. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter en votant ces règles à la COP26. C'est vraiment un enjeu.
Clément Sénéchal,
pour l'intégrité
le sujet des financements climat, c'est l'un des points cruciaux à l'ordre du jour de cette conférence climat.
Alors absolument, qu'est-ce qui pourrait être un succès de cette COP26? C'est tout simplement de donner vie à l'accord de Paris. Donc ça veut dire évidemment finaliser les règles d'application, c'est-à-dire à un moment donné, quel consensus on a sur l'interprétation des différents articles de l'accord de Paris et quel dispositif associer. Donc il y a effectivement l'article 6 que les États essayent d'interpréter comme la création d'un vaste marché carbone, de pratiques de compensation carbone, ce qui n'est pas dans le texte initial de l'accord de Paris, ce qui serait catastrophique comme interprétation. Le texte initial, c'est de régler la coopération internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi les cycles de révision des feuilles de route nationales, il y a la manière dont on adopte des règles de transparence sur les inventaires carbone des différents États. Et il y a aussi cette question évidemment des financements. Donc là, on parle des financements des pays les plus développés en direction des pays en voie de développement et des pays les plus vulnérables.
Pays développés s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020.
Absolument. C'était une promesse qui datait même de 2009, de la COP15 à Copenhague. Donc c'est une vieille promesse des États. Qui n'est toujours pas respecté. On est à hauteur de 80 milliards de dollars, par an. C'est fondamental, en fait, parce que c'est ce qui permet de mettre un petit peu du beurre dans les épinards des négociations, parce que les pays en voie de développement, ils attendent que les pays riches respectent leurs promesses pour ensuite pouvoir avancer dans les négociations sur les autres items. Mais je dirais, le grand enjeu de cette COP26, c'est de rendre l'accord de Paris plus concret. Et ça veut dire que il faut que la communauté internationale accepte de dire lutter contre le réchauffement climatique, c'est certes réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut faire un pas plus en avant et être plus explicite. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre les émissions de gaz à effet de serre? Ça veut dire sortir des énergies fossiles. Voilà. Donc c'est à un moment donné, il faut nommer explicitement la problématique des énergies fossiles et avoir une décision de COP qui fixe un calendrier de sortie de ces énergies fossiles qui soit clair et qui donne des règles du jeu.
En l'occurrence, là, ce n'est pas à l'ordre du jour.
On verra ce qui se passe dans les négociations. Ça peut être une décision de COP à la fin de ces deux semaines à Glasgow.
Hervé Le Trot, climatologue, membre de l'Académie des sciences, vous vouliez réagir?
Oui, je pense que il y a effectivement la partie signée des accords de Paris, qui est quelque chose d'effectivement très, très important. Je crois qu'il faut aussi mesurer le contexte dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. On est dans une situation qui est une situation extrêmement difficile, extrêmement grave. Je pense que le rapport sur les 1.5 qui a été fait par le GIEC il y a deux ans maintenant est un rapport qui disait que effectivement, on avait des situations extrêmement difficiles devant nous où, éventuellement, on pouvait renoncer aux objectifs actuels. Et ce qu'on mesure pas toujours, c'est la manière dont tout ceci nous engage dans la durée, dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de faire tout ce que l'on veut aujourd'hui. Donc je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir aussi une mesure de tout ce qui est possible, d'être capable de négocier autour de ces éléments qui sont possibles. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un besoin qui n'est pas explicite dans l'accord de Paris, c'est que l'accord permette aussi aux citoyens, aux personnes qui sont des acteurs, il n'y a pas que des acteurs institutionnels qui participent au GIEC, mais qu'on puisse avoir une vision de ce qui est possible, de ce qui est plus difficilement possible, avoir un discours de vérité autour de...
Hervé Le Trot, je me permets de vous couper ou éloignez-vous en tout cas peut-être du combiné ou parler un petit peu plus fort. On a du mal à comprendre tous vos propos. Je vous propose d'écouter trois autres acteurs majeurs de cette COP. Je vous propose notamment d'écouter le Premier ministre britannique Boris Johnson, la militante Greta Thunberg et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ces trois personnes nous disent ce qu'elles attendent de cette COP.
The clock L'horloge tourne. L'écart en matière d'émissions traduit un écart en matière de leadership. Mais les dirigeants peuvent encore créer un tournant vers un avenir plus vert, plutôt que d'arriver à ce moment critique vers une catastrophe climatique.
The Glasgow COP26 summit is the turning point for humanity.
Le sommet de la COP26 est le tournant pour l'humanité. Nous devons limiter la hausse des températures, dont les effets effroyables étaient visibles même dès cet été. Nous devons nous rassembler pour atteindre une maturité collective.
Ce n'est pas notre travail en tant que militants de faire de la politique, c'est à eux de le faire. La clé du succès serait que les gens commencent enfin à réaliser l'urgence de la situation et à se rendre compte que nous sommes confrontés à une crise existentielle et que nous allons avoir besoin de grands changements, que nous allons avoir besoin de déraciner le système, parce que c'est là que le changement va se produire, pas dans ce genre de conférences.
RFI.
Vous écoutez le débat du jour avec trois invités, Clément Sénéchal, porte-parole climat Greenpeace, Lola Vallejo, directrice du programme climat de l'IDRI, et puis Hervé Le Trott, climatologue. Nous nous intéressons à la COP26. À quoi servent ces conférences climat, sachant qu'on cite souvent donc l'accord de Paris, cette COP aussi organisée par la France. La France, bonne élève ou pas depuis 6 ans, Clément Sénéchal, en matière environnementale?
Non, la France, mauvaise élève. D'ailleurs, Emmanuel Macron va se présenter lundi devant ses pairs à la COP26 en étant condamné pour une action climatique, que ce soit par le Conseil d'État dans l'affaire de Grande-Synthe ou par le tribunal administratif dans l'affaire du siècle. La France est fustigée régulièrement par le Haut Conseil pour le climat pour son manque d'ambition, pour le manque de politique publique mise en œuvre et pour le manque de résultats. Aujourd'hui, il faudrait faire 2 à 3 fois plus. On réduit nos émissions de gaz à effet de serre en moyenne de 1,2% par an, grosso modo. On sait qu'il faut faire 2 à 3 fois plus et voire 7 fois plus si on écoute les recommandations de l'ONU. Hein. L'ONU nous dit qu'il faut baisser de moins 55% au niveau mondial les émissions en 2030. Pour l'instant, si on regarde les engagements actuels des différents pays, c'est moins 7,5%. Emmanuel Macron s'est noyé dans les mensonges sur le sujet tout au long de son quinquennat, notamment sur la Convention citoyenne pour le climat, dont il avait promis de reprendre l'ensemble des mesures. Et finalement, lors de leur examen législatif, elles ont été toutes peu ou prou enterré. Et c'est vraiment dommage parce que la France, effectivement, était présidente de la COP 21 qui a accouché de l'accord de Paris et donc elle a un rôle de garante à jouer qu'elle n'a pas su assumer. Et Emmanuel Macron n'est pas venu aux dernières COP sur le climat.
Lola Vallejo, vous partagez le diagnostic de Clément Sénéchal?
Alors c'est vrai que la France est objectivement en retard sur ses objectifs climatiques. Elle a pris des engagements ambitieux de neutralité carbone et elle doit encore relever son objectif de court terme à 2030. Et c'est vrai que les politiques actuelles ne sont pas en chemin pour les atteindre. Donc c'est vrai que la France doit faire mieux. Je pense que la France est aussi dans le contexte européen où l'ensemble du continent est en train d'essayer d'accélérer l'effort. Je pense que la France, parce qu'elle a un secteur de l'électricité plutôt décarboné par rapport à la moyenne mondiale, se heurte aussi à la difficulté de décarboner le secteur des transports et des bâtiments, où on ne va pas dans la bonne direction, voire on va dans la mauvaise direction, et on se repose de plus en plus sur des solutions très carbonées comme le fret routier, par exemple, pour le trafic de marchandises. Et il faudrait une action beaucoup plus volontaire. On a vu des mesures récentes, par exemple, pour faire face à la hausse des prix avec un coût très fort. Et ce serait intéressant de prioriser aussi ces larges investissements pour accélérer la transition énergétique et améliorer notre résilience par rapport aux hausses de l'énergie.
Hervé Le Trott, la parole est à vous.
Oui, donc moi je pense aussi qu'il y a deux dimensions du problème qu'il faut prendre en compte. C'est le fait qu'on a besoin aujourd'hui d'incarner, je crois, un peu toutes les décisions qui sont prises. On parle beaucoup, quand on parle de la COP, de pourcentage, de finances. Je crois qu'on a un besoin aussi par rapport à un peu tout le monde, par rapport à nos citoyens, de mesurer un petit peu ce qui va se faire sous forme d'actions, qui sont des actions concrètes. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les scénarios du futur, sur les ce dont on a besoin maintenant, je pense, c'est de démarrer vraiment les projets et de faire ce qui était un petit peu écrit dans la feuille de route de l'accord de Paris, c'était de démarrer des choses, de les mettre en place et d'essayer de, par rapport à ça, d'avoir une marque qui permette de se projeter dans le futur de manière plus forte. Alors, je crois que c'est vrai aussi pour ce qui est lié au processus régional, par exemple. Je crois qu'on a, en France, comme ailleurs, des capacités pour se développer sur ces problèmes-là de manière concrète, de manière visible. Donc, je crois qu'il faut aussi montrer ces exemples-là de manière plus forte qu'on ne le fait aujourd'hui. Tout ne doit pas passer par des accords qui soient des accords strictement financiers. Je crois qu'on a besoin aussi de mettre un petit peu de chair dans la manière dont on voit la problématique climatique aujourd'hui.
Le problème de l'accord de Paris, n'est-ce pas que juridiquement, il est non contraignant vis-à-vis des États? On prend comme ça, on parle, on a de belles paroles, on prend des actes, et puis finalement, on a du mal à les mettre en application sans être contraint de les faire appliquer, Clément Sénéchal.
Ouais, alors ça me donne l'occasion de corriger cette idée, effectivement, en voix, qui serait que l'accord de Paris serait non contraignant. L'accord de Paris, c'est un traité international. Il est donc au sommet de la hiérarchie des normes telles qu'on les observe, par exemple, en France. Par contre, sa rédaction en elle-même est un petit peu trop souple, on va dire. Elle est le fruit de compromis, évidemment, de l'ensemble des pays de la communauté internationale. Et donc, elle a un langage qui manque de précision et elle laisse une grande marge d'interprétation aux différents États. Et donc, c'est en cela qu'on peut dire que l'accord de Paris manque de pouvoir contraignant, mais pas par rapport à son statut, pas par rapport à son statut légal. Donc après, évidemment, c'est aux États de faire le travail au niveau national. Emmanuel Macron avait l'occasion de le faire avec la loi climat qui a été votée cette année, et malheureusement ça n'a pas été fait.
Que les États aient moins de latitude, pour reprendre l'expression de Clément Sénéchal, Lola Vallejo, vous en pensez quoi?
Je pense que effectivement, l'accord de Paris, c'est un cadre qui est important parce que tous les États l'ont signé, mais peut-être la vraie force de cet accord-là, c'est dans son appropriation par l'ensemble des acteurs de la société. L'accord de Paris, il y a par exemple celui qui a mis sur la carte le thème de la neutralité carbone. Alors, pour regretter le manque d'action réelle, mais en tout cas, c'est un concept qui s'est répandu et qui recouvre aujourd'hui les 4/5 de l'économie mondiale. Et je pense qu'au-delà de son pouvoir d'influence sur le concept et la façon de penser l'ambition, il a aussi ancré l'objectif de température de 1,5 degré. Il a aussi permis d'être un point de référence dans la législation et dans les différents juridiques. Clément Sénéchal parlait tout à l'heure des actions en justice. Et c'est notamment via, par exemple, cette progression du contentieux ou la référence à l'accord de Paris dans les stratégies nationales que petit à petit, la société civile arrive à faire avancer les gouvernements ou en tout cas à avoir en tête ce que c'est que le bon benchmark de l'ambition. Je pense qu'au moins l'accord de Paris, il a servi à ça, à clarifier qu'est-ce que c'était que l'action climatique et par le biais de la courroie transmise avec la science, d'avoir une meilleure idée de ce qu'il faut faire, de l'ampleur de ce qu'il faut faire dans les 5-10 prochaines années pour limiter les pires effets du changement climatique.
Quelle crédibilité donner à la COP26 qui s'ouvre là maintenant dans quelques jours à Glasgow quand on voit que certains chefs d'État, des absents plutôt de taille, hein, je pense au président chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine, qui seront absents et qui sont aussi parmi les plus grands pollueurs de la planète, Clément Sénéchal?
Alors effectivement, l'absence du dirigeant chinois est une absence de marque, hein, puisque la Chine est le premier pollueur, le premier émetteur mondial aujourd'hui. Pour autant, la Chine a finalement présenté une feuille de route réactualisée aujourd'hui, avec un petit peu de mieux dedans. Elle a annoncé aussi la fin des financements des centrales à charbon en dehors de ses frontières, alors qu'elle était le premier bailleur, hein, de ces énergies-là. Donc il y a quand même un frémissement du côté de la la Chine. Voilà, c'est effectivement la marque aussi d'un des investissements diplomatiques, cette absence-là. Pour autant, ça n'empêchera pas les négociations d'avoir lieu et potentiellement de parvenir à des conclusions favorables. Après, moi, ça m'inspire autre chose. Quel crédit donner au COP? Quel crédit donner au fait, en fait, de ne se réunir que 2 semaines par an pour finaliser les règles d'application d'un accord qui est crucial pour le destin de l'humanité? Que ne l'a-t-on fait dans la foulée de la signature de l'accord de Paris? Pourquoi les États n'ont pas pris 2 mois, 6 mois, 2 ans s'il fallait pour finaliser l'accord de Paris? C'est ça la question que moi je me pose aujourd'hui.
Je m'adresse au climatologue Hervé Le Treut sur les conséquences hein, du dérèglement climatique, canicule, notamment cet été au Canada, en Russie, inondations en Allemagne, en Belgique, incendies gigantesques en Kabylie, aux États-Unis, en Turquie, en Grèce, en France. Le bilan de l'été devrait encore interroger non, les derniers climato-sceptiques, Hervé Le Treut.
Oui, alors le climato-scepticisme, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu rentré, on ne sait pas exactement où il se loge, mais je crois que ce qui est important, c'est de considérer aussi la réelle nature, en fait, de ce qui nous attend et de ce qui est devant nous. Beaucoup de gens s'imaginent que le changement climatique, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer un peu comme... on passe un chiffon et puis on a nettoyé les choses. Je crois que c'est... on est face à un problème qui engage le futur d'une manière que les gens conçoivent mal, en fait. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre nous engagent sur des périodes extraordinairement longues, qui peuvent être allées jusqu'à un millier d'années quand il s'agit du relèvement du niveau de la mer. Donc, c'est des choses dont on doit concevoir la portée aujourd'hui. Donc, il y a des points de non-retour qui se dessinent toujours. Donc, quand on parle d'urgence climatique, je crois qu'on doit, avoir conscience du fait que le problème n'est plus le même aujourd'hui qu'il était il y a quelques décennies. Donc, oui, je crois que c'est très important. Mais ça veut dire aussi ne pas se tromper sur les décisions qu'on prend. Et là, je crois qu'il y a un point qui est vraiment important. Les décisions qu'on prend aujourd'hui ne sont plus toutes possibles. Donc, comme ils sont toutes possibles, on doit être capable de faire des arbitrages, de décider ce qui paraît le mieux par rapport aux échéances futures. Donc, il y a un besoin très fort, et je pense que les réunions comme celle de la COP sont des lieux où on peut discuter au minimum de ces choses-là. Je crois qu'il n'y a pas que des problèmes financiers, il y en a besoin. Mais on a aussi ce besoin, aujourd'hui, de bien concevoir ce qui va se passer, parce que ce qui s'est passé déjà... c'est que le futur n'est plus jouable de la même manière que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Donc, je crois que ce besoin de redéfinition, il n'a rien de contradictoire, ou bien au contraire avec l'accord de Paris, mais il est nécessaire aujourd'hui.
Lola Valéjo.
Je pense que ce qui est dangereux, c'est de faire croire que tout se passe au COP. On a besoin d'un moment politique de haut niveau pour continuer à faire avancer le processus. Néanmoins, le climat aujourd'hui, c'est un des défis les plus importants de l'humanité et il est partout. Il est traité par la communauté de la santé publique, par la communauté de la finance et vraiment à toutes les échelles. Donc même si cette discussion avance à la COP26, le gros des efforts et de ce qui doit être poussé doit être ensuite mis en œuvre au niveau des pays. Donc c'est vraiment dans les discussions domestiques qu'ont lieu les avancées concrètes et la COP permet d'être le moment où on fait le bilan de ce qui est fait chez les uns chez les autres et on espère qu'il y a une émulation entre les pairs parce qu'on a de la transparence sur ce que font les uns et les autres. Mais c'est vraiment le principal atout de ces réunions-là, au-delà de l'inclusivité qu'a déjà mentionné Clément Sénéchal.
Merci beaucoup à nos trois invités d'avoir participé à cette émission en direct de Paris. Clément Sénéchal, porte-parole climat de Greenpeace, Lola Valéjo, directrice du programme climat de l'IDRI, et puis Hervé Le Treut, climatologue, membre de l'Académie des sciences. La COP26 débute ce dimanche. Radio France Internationale en fera évidemment l'écho sur ses antennes. Réalisation ce soir, Antoine Douxamy, coordination Florence Ponce, rédaction en chef Jacques Alix. Demain, à cette heure-ci, vous retrouverez l'émission Accent du Monde présentée par Philippe Le Caplin. À suivre dans quelques secondes sur la Radio Mondiale, un nouveau journal.
Une semaine d'actualité.